Bonsoir. Radio Libertaire, 89.4, le grand soir du mardi, émission du groupe Libertaire La Rue, qui a lieu tous les troisièmes mardis du mois de 19h30 à 20h30, vous propose aujourd'hui d'aborder un sujet d'actualité, la construction d'un échangeur autoroutier au cœur du quartier Pleyel, à Saint-Denis, avec notre invité, Hamid Ouidir. Hamid Ouidir, bonsoir.
Bonsoir.
Les projets d'aménagement décidés par l'État dans le cadre du Grand Paris et des JO 2024 se heurtent à des mouvements de contestation contre la captation et l'artificialisation des terres agricoles et contre la pollution. Mouvements sociaux qui ne cessent de s'amplifier. Le Grand Soir du mardi a déjà réalisé 3 émissions sur les collectifs en lutte contre ces projets d'aménagement sur le Triangle de Gonesse, les Jardins des Vertus à Aubervilliers, le plateau de Saclay. Hamid Ouidir, vous habitez le quartier Pleyel, vous êtes parent d'élèves et représentant à la Fédération des conseils des parents d'élèves dans le groupe scolaire Pleyel Anatole France. Vous êtes également membre du comité vigilance JO 2024. Vous êtes venu nous parler ce soir du combat mené contre la construction d'un échangeur autoroutier sur la A86 à Pleyel et sur les raisons qui vous ont conduit à vous engager dans ce combat. La France est désignée en 2017 pays hôte pour organiser les JO 2024. Une loi est promulguée le 26 mars 2018 pour accélérer la réalisation des infrastructures olympiques et tous les projets en lien avec les JO. Première question, 5 projets d'envergure seront actés dans le quartier Pleyel à Saint-Denis. Pouvez-vous nous dire un mot sur ces projets ?
Le premier projet en fait qu'on nous avait proposé, c'était le hub. La gare du Grand Paris Express Pleyel, donc qui va regrouper, je crois, 4 ou 5 lignes de métro et qui va brasser 250 000 passagers par jour. À côté de cette grande gare, on a les Lumières Pleyel. Donc, c'est un îlot d'habitation, en fait, qui était conçu à la base pour accueillir des logements et des bureaux. Il y a eu un recours juridique en fait que 3 associations ont mené contre ce projet, surtout le projet de franchissement urbain Pleyel, qui ont annulé l'utilité publique de ce projet. Et de fait, aujourd'hui, Lumière Pleyel est devenu un projet touristique. En fait, on aura des hôtels et des logements. Nous avons aussi le village olympique et paralympique, parce que le quartier Pleyel sera investi en fait par les 15 000 athlètes et accompagnants qui viendront en fait en été 2024 pour les compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc ce quartier sera en fait le lieu où s'entraîneront les athlètes en dehors des compétitions. Nous avons aussi le franchissement, je viens d'en parler, le franchissement urbain Pleyel, c'est un pont qui va relier en fait 2 quartiers, donc qui va franchir 320 mètres de voie ferrée, donc à Pleyel. C'est un projet qui date de très 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 longtemps, il s'appelait pas comme ça, mais bon, c'est un projet qui date de très longtemps. Et les Jeux Olympiques, en fait, permettent en fait de le financer. Ensuite, on a l'échangeur complet à 5 bretelles de la 86 à Pleyel.
Voilà, donc justement, nous sommes là au cœur de notre sujet. Je vais vous demander, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'un échangeur autoroutier ? En quoi consiste le projet d'échangeur autoroutier sur la A86 à Pleyel ? Et quand doit-il être livré ?
Ce projet ne date pas d'hier, en fait. Hein, il date de plusieurs années. Et pareil pour le franchissement urbain Pleyel. Ce projet est financé grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Sinon ils auraient essayé de le réaliser il y a plusieurs années. Ils auraient peut-être pas pu, mais avec l'euphorie des Jeux Olympiques, ils y arrivent. Un échangeur autoroutier, c'est en fait des bretelles qui permettent de relier deux autoroutes entre elles, sans sortir sur les voiries, enfin sur les boulevards, les rues. Et un diffuseur autoroutier est un... ce sont des bretelles, de la même manière pour l'échangeur. Par contre, ces bretelles permettent d'accéder et de sortir de l'autoroute. Donc, ce projet a été improprement dénommé échangeur. Enfin, le vrai nom du projet, c'est aménagement du système d'échangeur Pleyel à 86, Porte de Paris à 1, à Saint-Denis. Dans la Seine-Saint-Denis. Et j'avais soulevé cette question dans les réunions de concertation avec les élus et avec la DIRIF, la Direction des routes d'Île-de-France, qui réalise ce projet, en leur disant cette dénomination est fausse, parce qu'il s'agit bien d'un diffuseur autoroutier, il ne s'agit pas d'un échangeur. Bon, on gardera tout au long de cette émission en fait cette dénomination, parce que c'est celle qui a été adoptée. Mais il faut juste savoir qu'un échangeur permet aux voitures de passer d'une autoroute à l'autre cloisonnée, donc sans sortir de l'une ou de l'autre. Un diffuseur, par contre, permet justement de sortir ou de rentrer dans l'autoroute. Donc à Pleyel, il y a bien un diffuseur et non un échangeur. Mais on va continuer à parler d'échangeurs.
Merci. Quand est-ce que ça doit être livré ?
En 2023. D'accord. Je crois à l'été 2023.
En quoi ce projet est lié au JO 2024 ? Et comment est-il financé ?
Alors, on est venu très très tôt enfin, sur ce sujet, en janvier 2019. On a essayé de contacter en fait, la Solideo, la DIRIF, tous ces promoteurs de ces projets pour leur demander s'il y avait un lien établi entre ce projet et les Jeux Olympiques et nous nous sommes heurtés en fait à un mur. Donc on n'a pas eu de réponse. Deux semaines avant que la Cour administrative d'appel de Paris rende sa décision sur l'appel de fonds, en fait, Nicolas Ferrand, directeur général de la Solideo, vient témoigner dans le journal L'Équipe pour dire que ce projet est nécessaire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques parce qu'il faciliterait en fait l'accès au site olympique du village olympique. Parce
Donc que là, les vous avez eu votre réponse.
Tout à fait, un peu tard, mais nous l'avons eu.
Vous pouvez nous dire ce qu'est la Solideo ?
C'est la société de livraison des ouvrages olympiques, dont la présidente est la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le directeur général est Nicolas Ferrand.
Alors, ces projets, et en particulier celui-ci, mais aussi le fameux pont, ont donné lieu à une levée de boucliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet ? Vous venez nous dire en quoi il consistait, mais quelles sont les conséquences ? Pour quelles raisons vous êtes-vous élevé contre ce projet ?
Tout a commencé quand on a été convié à une réunion, enfin pour ma part, pour assister en fait à l'élaboration justement de la gare. De la gare, sa hauteur, parce qu'il y a quand même une dénivelée, et les riverains étaient invités à une réunion pour savoir de quoi il en retournait. Et là, j'avais vu en fait une illustration dans laquelle en fait une rue périphérique à quatre voies, qui transporte 10 à 20 000 véhicules par jour, était assurée. Donc ça m'a interpellé. Donc j'ai posé la question à l'élu qui était là pour expliquer le projet de la gare. Et il m'avait dit, en fait, cette rue serait déconnectée des axes principaux du quartier le temps de réaliser la bretelle, une des bretelles de l'échangeur, du futur échangeur. Bon, sa réponse ne m'a pas vraiment convaincu. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé, en fait, à m'impliquer et à essayer de comprendre ce qui se passait. Et donc mes craintes ont été confirmées quelques mois après, quand j'ai su que cette rue allait être déconnectée complètement des axes routiers du quartier. C'est une rue qui est à quatre voies, sur laquelle circuler, puisqu'elle est en travaux aujourd'hui, elle sera déconnectée demain, donc circuler 10 à 20 000 véhicules par jour, des données du département de la Seine-Saint-Denis. Et en fait, tout ce flot de véhicules sera orienté et dévié au cœur du quartier. De la même manière, le village olympique et paralympique va réduire de trois voies à deux voies les voies sur berge, la RD1. Et du coup, quand on demande est-ce qu'il y a un effet de report de la circulation induite par cet échangeur et par le franchissement urbain au cœur du quartier, on nous a toujours dit non, aucun effet de report. Enfin, on dit, mais enfin, c'est pas possible. Il y a la Seine d'un côté, il y a les voies ferrées de l'autre et le quartier au milieu, le quartier Pleyel au milieu. Donc, in fine, si vous déconnecter une rue à quatre voies, c'est pas une rue, c'est une bretelle d'autoroute, ce truc. Et vous réduisez de trois à deux voies les voies sur berge, ben, in fine, vous allez mettre tous ces véhicules, avec le surplus de véhicules qu'on aura avec la complétude de cet échangeur, on les aura au cœur du quartier. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur du quartier ? Il y a des habitants et surtout un groupe scolaire constitué de deux écoles, maternelle et élémentaire. Et du coup, aujourd'hui, la maternelle de ce groupe scolaire est éloignée de 120 mètres de cet axe périphérique qu'ils vont déconnecter, qui est à 120 mètres aujourd'hui. Donc ils vont rapprocher cette circulation de 10 à 20 000 véhicules à 2 mètres. Donc quand on a levé justement les boucliers, ils ont reculé un petit peu, ils ont mis en fait le boulevard Anatole France, qui est adjacent à la maternelle, à 12 mètres, en nous disant, regardez, on vous fait une fleur, on déplace de 2 mètres. En fait, le projet initial, c'était 2 mètres. C'était pas 12.
Vous voulez dire 2 mètres
de la façade de l'école.
On sert les écoles.
Tout à fait. Donc 2 mètres d'un côté et puis 6 mètres de l'autre côté, parce qu'il y a le boulevard de la Libération. Donc là, ce groupe scolaire sera encerclé par deux boulevards, boulevard Anatole France, boulevard de la Libération, et au-dessus de la 86, fermera ce triangle, un triangle sur lequel l'autorité environnementale a émis un avis dans un des paragraphes en disant le triangle révolte Anatole France et Libération sera juste suffisant pour supporter le poids de la circulation qui y sera mise à l'horizon 2030. Comprenez bien que mécaniquement, ce triangle de circulation ne supportera pas le poids de la circulation qui sera induite par cet échangeur, du fait que le quartier lui-même n'a pas assez d'axes routiers qui pourront absorber en fait ce flot de véhicules.
Donc en fait, il y a 5 bretelles, c'est ça ?
Tout à fait, connectées à des boulevards qui sont adjacents à cette école.
Et 5 bretelles qui viennent donc de la 1, Non,
c'est 5 bretelles du diffuseur de Pleyel.
D'accord. Donc ces 5 bretelles, en fait, elles enserrent dans un triangle deux écoles.
Tout à fait, à
5 mètres. Je crois qu'il n'y a pas simplement deux écoles, il y a aussi
la crèche des Sonatines et le collège de Rama un peu plus loin.
Et un hébergement pour étudiants aussi.
Subika, il a été détruit.
Ah, il a été détruit là.
Oui, enfin, d'ailleurs, ça a levé aussi... Ça nous a posé problème, parce qu'il y avait aussi un foyer de travailleurs immigrés, hein, enfin, situation oui. régulière, enfin, le foyer ADEF. Mm-hmm. On leur a dit, en fait, au départ, prenez vos bagages et partez. Donc, c'était pas plus que ça, en fait.
On les relogeait pas.
Non. Au départ, c'était ce qu'on leur avait dit, c'était partez, sortez de ces logements, des logements de l'ADEF.
Ça va être détruit.
Ça va être détruit, et puis on n'a pas de solution de relogement pour vous. Et donc, comme je fais partie depuis février 2019 du comité vigilance, on faisait un toxic tour, on passait par là, et on rencontre en fait Aboubacar, un des représentants en fait du collectif des habitants du foyer de l'ADEF. Et là, on a essayé de porter en fait sa voix très très loin. Et enfin voilà, en résumé, on a réussi. Pas nous, hein, enfin, grâce à eux, parce que c'est leur mobilisation, leurs écrits qui ont fait qu'ils ont été hébergés. Donc là, il y a un autre immeuble qui va être construit rue du Landy. Un autre qui est très très proche du périphérique. On déplore la situation de cet immeuble, mais bon, enfin c'était mieux que les Algéco qu'on leur avait proposé, parce on leur avait proposé en fait des Algéco, donc vivre dans le chantier pendant 3 ans. Enfin c'est inhumain. Et on leur donnait en fait en guise d'habitation 18 mètres carrés avec des vestiaires. Vous savez, les vestiaires de travailleurs.
Et les toilettes sur le papier.
Et des toilettes, c'est des toilettes qui sont à l'extérieur des Algéco.
Mais ça concerne combien d'enfants en fait ?
Alors, le groupe scolaire comportait 700 enfants il y a 4 ans ou 3 ans. Et comme ils ont ouvert un autre groupe scolaire. Enfin, là, il est toujours au stade d'Algécourt. Hein. Ils n'ont rien fait. Il devait être livré en 2019. Ils sont toujours en Algécourt. Hein. C'est la rue du Landy. Il est toujours dans le même quartier. Et du coup, le groupe scolaire a vu baisser son effectif de 700 à 600 enfants. Aujourd'hui, nous avons, parce que les premières communications, on les faisait sur 700 enfants. Et aujourd'hui, ils ne sont que 600.
Ils ont quel âge ?
Ils ont entre 3 ans et 12 ans.
Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de nous expliquer que 600 enfants âgés de 3 à 12 ans vont être pris en étau autour de bretelles d'autoroute qui sont à 2 à 6, à 6 mètres de distance des murs. C'est ce que vous nous êtes en train de nous expliquer.
Tout à fait, tout à fait.
Il y a eu des récentes analyses, n'est-ce pas, d'Air Paris.
Oui, et des capteurs de respire, parce que avant que Air Paris ne vienne dans le quartier pour installer sa station, parce que c'est une station, juste pour mémoire, qui a été demandée par nous, riverains, associations et collectifs, lors du forum de la DIRIF qui date de 2019, et où on avait demandé à la commission d'enquête de le coucher sur leur rapport et de demander en fait justement que un protocole sanitaire soit mis en place et parmi en fait les choses qui seraient mises dans ce protocole, une station de relevé d'une ASQI, donc une association agréée qualité de l'air, donc Air Paris est la seule, en tout cas en Île-de-France, qui est habilitée à faire ces relevés, et c'est des relevés qui seraient pas opposables. Et donc à la fin de l'enquête publique en octobre 2019, nous étions, on ne s'y attendait pas que la commission d'enquête allait valider ce projet, sachant qu'on les a ramenés dans le quartier Pleyel. Ils ont marché du Stade de France jusqu'au quartier Pleyel. Ils ont vu en fait l'étendue des dégâts qui seraient faits en fait aux abords de ces établissements scolaires et au cœur du quartier Pleyel. Ben, je ne sais pas pourquoi ils ont validé ce projet. Peut-être que les études d'impact qui ont minoré en fait les impacts de ce projet est passé. Toujours est-il que ils ont couché sur dans leur rapport qui valide ce projet, ce protocole qui devait être mis en place en 2020, début 2020. La station est arrivée en avril 2022 et mise en marche en fait le 31 juillet pour les PM2.5, PM10 et en 31 août pour les dioxydes d'azote. J'ai relevé quelques détails que j'ai soumis en fait à la directrice Anne Kaufmann de Air Paris dans un courrier qui n'a toujours pas de réponse. Donc je vais essayer de relancer bientôt. Parmi les points d'ombre que j'ai soulevés à Air Paris, c'était les concentrations journalières. Parce que le dispositif qui va coûter quand même une bagatelle de 125 000 euros par an et 350 000 euros sur toute la durée où sera installée cette station dans la cour de l'école, n'a pas été mise à côté de la voirie, elle est mise à l'intérieur de l'école. Et le point que j'ai soulevé en fait, lors des réunions, les réunions de consultation, c'était que cette station devait être à côté de la voirie pour capter les polluants au plus près de l'émission. Et non pas dans une cour d'école où on ne saurait pas ce qui rentre par les fenêtres des classes des élèves. Et donc c'est un point d'ombre qu'on n'a toujours pas encore résolu. Et c'est un point qui est évoqué dans la pétition qui est actuellement sur le site de Greenpeace, qui parle justement, qui demande au président de la République et du ministère de la Transition écologique et solidaire, parmi les points qu'on demande, celui-ci, c'est de mettre cette station de relevé de pollution Air Paris à l'endroit où elle devrait être, à côté de la voirie, à proximité de l'établissement scolaire.
Frédéric, tu souhaiterais intervenir ?
Oui, juste quelques petites questions. Qui finance en fait les travaux en fait? Est-ce que c'est de l'argent public ou de l'argent privé? Quid de la pollution sonore aussi? Et quid aussi du devenir après les Jeux? Voilà, je vous redonne le micro.
Donc le projet est fait pour durer, hein. Il n'est pas fait que pour les Jeux Olympiques. Il est fait pour rester là, parce que les projets autoroutiers, de cette nature en tout cas, c'est des projets qui sont portés par l'État et qui durent au minimum 30, 40, voire 50 ans. Voilà. Donc c'est la Solideo qui paye intégralement ce projet.
Qui est un organisme public.
Public, qui a été créé en fait en 2017 pour justement gérer la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Budgets. Donc le budget, il faut comprendre que le budget alloué en fait à ce système d'échangeurs, c'est financé par les Jeux Olympiques. Comprenez bien. Donc effectivement, c'est l'État à hauteur de 75% et la région à hauteur de 25% qui ont abondé en fait cette cagnotte de 95 millions d'euros, mais dans l'organisme Solideo, qui construit et conçoit les préparatifs pour les sites et les infrastructures alentour.
On a répondu à ta question, Frédéric ?
Ouais, à peu près, oui. C'était la nuisance sonore aussi.
Ah oui,
enfin, la nuisance sonore. Si j'ai bien compris, donc, c'est de l'argent de nos impôts, quoi, en fait.
Tout à fait.
Donc, pour la nuisance sonore.
Alors, pour la nuisance sonore, en fait, la dérive, c'est pour ça que je vous disais, en fait, les études d'impact qui ont été, en fait, proposées à l'autorité environnementale, puis au commissaire enquêteur et à la justice, puisque on est parti en justice contre ce projet, minimiser, en fait, l'impact de ce projet. Et les choses que proposait en fait la direction des routes d'Île-de-France pour réaliser ce projet, donc ils ont tout fait en tout cas pour que ça soit accepté, donc rogner sur les distances, essayer de réduire les voiries, tout pour que créer une végétalisée, comme si une espèce de végétaux dépolluait l'air, enfin c'est quelque chose, c'est un argument qui est tombé en justice, qu'il faut jamais utiliser. Donc voilà, tous ces arguments, en plus un bitume spécifique qui coûte très cher, qui serait en fait appliqué pour absorber en fait la pollution sonore. Ça existe, on le voit en fait dans des routes, sauf que c'est très très cher et ça n'empêche pas en fait d'avoir ces pollutions liées à l'abrasion de cette chaussée, les pollutions liées au freinage, à l'usure des pneumatiques, parce que là on passe au véhicule électrique. Jusqu'à quand en fait on aura vraiment ces voitures, parce que, voilà, c'est une promesse qu'on nous fait, on nous dit voilà c'est la solution et tout, mais on se rend compte que vous allez vivre sainement enfin dans vos quartiers, mais vous détruisez quand même des ponts entiers en fait dans le globe. Et il faut juste savoir que l'extraction du cobalt dans la République du Congo, je crois, emploie 40 000 enfants pour l'extraction du cobalt, le cobalt qui rentre dans les composants des batteries électriques.
Oui. Je vais vous poser encore une question, peut-être avant la pause musicale. Quelles sont les conséquences de la concentration de la pollution sur l'organisme humain, et en particulier, évidemment, sur les jeunes enfants ?
Enfin, il est avéré aujourd'hui que, en fait, les particules fines, et quand je parle des particules fines, c'est des particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. Donc vous prenez les cheveux, en fait, une PM10, une particule en suspension 10 micromètres, c'est le cinquième de l'épaisseur d'un cheveu. Une PM2.5, c'est le dixième. Une PM1, parce que là on descend encore plus loin, parce qu'on s'est rendu compte que les moteurs thermiques actuels, récents, cassent pour extraire vraiment la moindre molécule d'hydrocarbures pour ne pas gaspiller. En fait, on se rend compte que derrière, on fabrique des particules extra fines. On tombe jusqu'à 0,75, puisqu'on parle de particules réglementées. C'est les 2,5 et les PM10. Et beaucoup de nos concitoyens ne savent pas qu'il existe des PM1, des particules à micromètre, ou 0,75, qu'on ne relève pas aujourd'hui. Donc en fait, les particules qui sont réglementées, celles-là, oui, on les détecte, on les relève, on en fait état, et puis
on les publie sur les sites, sites du Air Paris et des autres ASQI, ASCA, sauf que les PM1 et les 0,75, qui sont beaucoup plus dangereuses que les PM2,5, qui sont déjà cancérigènes et créent des problèmes cardiovasculaires et cérébraux et tous les dérèglements hormonaux que ça peut induire, en fait, on n'en parle pas. Vous voyez, donc il faut juste dire que le dioxyde d'azote plus ces deux particules qui sont relevées, PM2,5 et PM10, sont des particules qui sont cancérigènes et qui créent de graves lésions au niveau de l'organisme.
Alors, sur ces paroles terribles, on va faire une pause et on va peut-être écouter une chanson qui a été chantée d'ailleurs par un des collectifs Pleyel.
Non, c'est une chanson qui a été écrite par des Parisiens pour les enfants de Pleyel.
Ah, très bien.
Oui, c'est juste pour vous dire que les gens ils s'entraident. Oui. Comme quoi, voilà, c'est.
Merci Hamid. Frédéric, si tu veux bien. Radio Libertaire, 89.4, le grand soir du mardi, émission du groupe Libertaire La Rue. Reçoit donc aujourd'hui Hamid Ouidir pour nous parler de la construction de l'échangeur autoroutier au cœur du quartier Pleyel à Saint-Denis. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons nous intéresser à la mobilisation contre ce projet. Mais, ami Douidir, peut-être un petit mot sur cette chanson.
Oui, elle a une histoire, cette chanson. En fait, c'était durant, je crois que c'était avant l'été 2020, où Alternativa, en fait, voulait faire quelque chose pour ses enfants. Ils ont bloqué une rue. Ils n'ont pas réussi en fait à finir en fait l'action puisque la police est arrivée très très tôt. Il faut juste savoir que Playel, c'est 3000 agents EDF, donc c'est un site qui est hyper comment dire important. Et du coup, c'est pas juste les Jeux Olympiques, c'est vraiment. Et Mus, ça s'est très très bien passé. Hein. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de. C'était bon enfant, il n'y a pas de. Et la rue est à nous. En fait, c'est un collectif qui travaille justement pour que l'établissement scolaire soit protégé de la circulation routière à Paris, en espérant que ça fasse des émules ailleurs. Et pourquoi pas à Playel, à Saint-Denis ou dans la petite couronne parisienne. Et à cette occasion, donc, des membres de ces collectifs, Rue est à nous, Alternativa, ont voulu faire en fait une petite chanson qui décrit vraiment la situation que vivront ces enfants. Donc il faut savoir qu'il y a des enfants, pas tous, il y aura beaucoup d'enfants qui porteront des séquelles à vie si ce projet se fait de cette manière et si rien n'est fait, en tout cas, pour éloigner cette circulation de ces enfants.
Donc ces projets, en particulier le projet dont nous parlons, hein, qui concerne les 600 enfants, a soulevé une très très forte indignation. Comment s'est organisée la riposte ?
Difficilement, parce qu'il y a eu à l'époque, en fait, c'était juste avant le Covid, il y a eu aussi les gilets jaunes, il y avait les présidentielles, enfin, c'était vraiment chaotique, c'était très difficile pour nous, parce qu'en fait, on était noyés, en fait, dans le paysage médiatique, en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose, donc à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, pas forcément une action, mais un toxique tour, enfin, on les a fait, mais ça n'a pas eu autant d'effet qu'on l'aurait souhaité. Toujours est-il qu'on est arrivé à nos fins, on a informé les gens, on a agrégé pas mal de gens à l'intérieur et à l'extérieur, en tout cas, de ce quartier, pas dans la mobilisation dans la rue, mais à la compréhension en fait de ce problème, parce que notre objectif principal, c'est que les gens comprennent de quoi il s'agit. On leur dit que ce projet est magnifique, que ça va développer l'économie, il y aura une plus-value dans le quartier, pour la vie.
C'est,
pour... c'est assez édulcoré, c'est du greenwashing. Et on se rend compte, nous, habitants experts de nos quartiers, qu'il en est autrement. On voit bien que c'est du mensonge. Après, voilà, malheureusement, on peut pas forcer les gens à venir s'informer, à venir comprendre, puisque en fait, les promoteurs ont des campagnes de communication qui sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieurs aux nôtres. Et donc, ils arrivent avec cette euphorie des Jeux Olympiques. Je n'ai rien contre les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques, il faut savoir, c'est un catalyseur pour tous ces projets. Ces projets qui vont augmenter la situation de la pollution dans le quartier Playel.
Les collectifs et les associations, en fait, il y en a plusieurs maintenant qui sont engagés dans les différents combats.
Oui.
C'est donc collectif et ces associations se sont lancées dans des bras de fer juridiques.
Oui, au jardin ouvrier de Bervilliers, centenaire, oui. Il y a un saccage 2024 avec les habitants, les riverains, qui ont protégé ces jardins. Donc, avec des actions dans les jardins, ça leur a valu des gardes à vue et heureusement ils sont sortis sans peine, sans voilà juridique.
Pas encore complètement.
Voilà, réglé, c'est pas encore. Je crois. Mais toujours est-il que les jardins sont sauvés. On ne sait toujours pas ce qu'il adviendra de ce qu'ils ont commencé, parce qu'ils ont détruit ces jardins, ils ont coulé du béton dessus. Et quel est l'avenir en tout tout cas de ces parcelles.
Mais au sujet de l'échangeur autoroutier, vous avez aussi intenté des procédures juridiques, il y a eu des recours.
Oui. En fait, quand on a poussé en fait les concertations et les réunions publiques avec ces enquêtes qu'on a abondées d'avis. Il fallait écrire. Je crois qu'il y a une centaine d'avis sur cette enquête publique et la plupart étaient négatives. Toujours est-il que la commission d'enquête n'a pas jugé en pertinent, en fait, de toute échelle gardée pour elle, de considérer que ces avis négatifs soient représentatifs. Et quand on leur dit, il y a 95 ou 100 avis, il faut considérer ces avis comme des... Voilà. Comme des avis concernant ce projet dérivé. Et quand l'enquête publique s'est terminée, on n'avait pas le choix. Donc le rouleau compresseur poursuivait sa route, donc nous, il fallait qu'on le stoppe. Et le seul moyen de le stopper, c'était d'intenter un recours juridique devant la Cour administrative d'appel de Paris. Mm-hmm. Donc nous l'avons porté le 20 janvier 2020. Nous avons réussi à suspendre l'intérêt général de ce projet autoroutier d'envergure le 5 mai 2020. Donc nous l'avons stoppé pendant 5 mois et par ce recours juridique, et sachant que le juge au référé disait que en fait il émettait beaucoup de réserves sur les dispositifs de protection, contre la pollution qui était proposée par le réalisateur ou le maître d'ouvrage.
Donc il reconnaissait les dangers que
ça représentait pour le juge. Et du coup, il y a eu un mémoire en réponse, ils ont refait un petit peu leurs études, puis ils ont proposé des choses, pour nous c'est des mesurettes, mais le juge sur le fond a considéré que c'était bon, et que nous comprenons qu'il y aura quand même une augmentation de la pollution par rapport à la situation, il n'y aurait pas de projet, donc ça c'est très très important à dire, c'est que la qualité de l'air sera moins bonne que s'il n'y avait pas de projet, ça c'est écrit noir sur blanc.
Oui.
Et malgré tout, ils vous disent que pour des raisons socio-économiques, nous validons le projet.
Donc on sacrifie les enfants.
Sachant qu'il y aura une détérioration de la qualité de l'air par rapport au fait qu'il n'y ait pas de projet. Donc non, ils ne vous le disent pas comme ça, ils ne vous disent pas qu'ils détériorent, ils minimisent en fait les impacts de la pollution par rapport à l'évolution du parc automobile, par rapport à ces bitumes spécifiques qui absorbent les ondes sonores, par rapport aux ZFE. Et donc je me suis renseigné, là il y a une commission sur les ZFE, et elle a été menée il y a pas très longtemps, il disait, en fait la personne disait, c'était Bruno Miliane je crois, avec quelqu'un d'autre, je me souviens plus de son nom, il disait en fait les ZFE ne seraient mises en place dans le meilleur des cas qu'en 2025, et encore. Sachant qu'on ne sait pas qui installerait les portiques à l'entrée de ces ZFE. Parce qu'aujourd'hui, les ZFE existent, mais il n'y a aucune amende qui peut vous être envoyée parce que votre vignette critère n'est pas bonne. Et en plus, la vignette critère n'est pas vraiment un critère absolu pour les véhicules, puisqu'un SUV qui pèse 2 tonnes, par rapport à une 2 chevaux qui circulent au diesel ou à l'essence, en fait, si vous voulez, la 2 chevaux aurait un critère 3, alors que le SUV de 2 tonnes, il aura un critère 1. Enfin, c'est aberrant. Et donc, en fait, ce député, avec son collègue, travaillait justement sur le moyen de relier en fait la carte grise qui comporte toutes les caractéristiques de la voiture, donc poids, volume la largeur des pneus, en fait, toutes ces caractéristiques vraiment pertinentes pour juger de la nocivité d'un véhicule dans une ZFE. Pas seulement parce que le véhicule est récent, et c'est parce qu'il émet peut-être beaucoup plus de particules fines que une petite voiture qui aurait un critère 4. Je me suis documenté aussi sur d'autres choses, mais je me suis rendu compte que la voiture électrique, comme je vous disais, ce n'est pas une solution en soi, parce qu'on ne sait pas en fait les dégâts que ça peut causer, en tout cas loin de nos frontières.
Comme Congo, par exemple.
Je vous ai donné cet exemple, mais il faut juste savoir que une Tesla. Une voiture électrique Tesla, en fait, haut de gamme, elle embarque 200 kg de cuivre. Je ne parle pas de la batterie, hein, je ne parle pas de la batterie avec tous les terres rares qu'il y a dedans. Je parle juste de cuivre dont on se sert pour le bâtiment, pour le, notre réseau électrique, pour nos, nos appareils ménagers. Enfin, il y a 200 kilos de cuivre dans une voiture électrique. Enfin, comprenez, dans une Renault Zoé, vous voyez, cette petite, toute petite voiture, vous pensez qu'elle est toute petite et anodine, une Renault Zoé électrique, donc il n'y a pas d'autre modèle, elle, est, elle embarque 5 kg de lithium, 50 kg de mélange nickel, manganèse, cobalt, 25 kg de cuivre. Et plus, plus d'autres. Donc, l'Agence internationale de, à l'énergie vous dit qu'une voiture électrique embarque en moyenne 200 kg de métaux, métaux vraiment difficiles à extraire, contre 35 à 40 kg pour une voiture thermique actuelle. Donc, il faut juste comprendre que on nous donne des solutions, mais elles n'en sont pas réellement. Mais je veux dire, on ne sait pas comment on va alimenter en fait les bornes électriques pour charger ces voitures. Quelle est l'autonomie de ces voitures? Il y a des effets d'emballement des batteries. On le sait maintenant que en fait elles sont surveillées avec des cellules à l'intérieur. Enfin, pour une Tesla, on a presque 7000 cellules qui surveillent ces batteries. 190 pour une petite Zoé. Mais on voit bien qu'il y a quand même des dangers. Et c'est une technologie dont on ne sait pas en fait l'impact environnemental mental réel sur le monde et pas juste chez nous. Et voilà. Donc,
ce que vous nous dites, en fait, c'est que le problème, la mise en place des voitures électriques ne résout rien.
Et ne fait, résoudra pas les problèmes.
Le problème reste entier, en fait.
Oui, oui. Parce qu'on a toujours les particules fines qui sont émises par l'abrasion de la chaussée et des pneumatiques, en plus des freinages. Donc, je pense que c'est à hauteur de 40%. En fait, les particules fines émises par une voiture quand elle roule, avec ce phénomène d'abrasion, du pneumatique et de la chaussée, plus de l'abrasion du frein. C'est, d'ailleurs, il y a une norme qu'on a essayé d'emmener devant, devant l'Europe, c'est la norme Euro 7, qui doit normalement donner en fait, un cap pour les plaquettes de frein, pour les pneumatiques, pour les chaussées, enfin tout ça. Et les constructeurs sont tellement, tellement apeurés par cette norme, parce qu'elle va leur demander énormément d'investissements pour limiter justement qu'ils sont prêts en fait à investir massivement dans de l'électrique plutôt que d'améliorer des modèles qu'ils ont actuellement.
Classique.
Oui, oui.
Pardon. Alors. Une proposition de projet de loi pour protéger les sites sensibles parmi lesquels les établissements scolaires sera portée par un groupe parlementaire devant l'Assemblée nationale. Pensez-vous que cette démarche va aboutir ?
J'espère, j'espère. Parce que ceux qui vont voter contre, je pense qu'ils en seront pour leurs frais. Hein. Enfin, quand on essaye de fabriquer une loi qui protège des enfants d'un trafic routier, donc il faut juste savoir aussi que le trafic routier à côté d'un établissement scolaire ne suppose pas juste des problèmes de pollution, il suppose aussi des problèmes d'accident. Oui. Vous savez, aux abords d'un établissement scolaire, quand vous avez en fait une fréquence de circulation de véhicules, vous augmentez aussi l'accidentogénéité, je ne sais pas comment ça se dit, de...
les risques, en tout cas.
Voilà. Il y a des risques inhérents, en fait, à ces voitures, en fait, qui roulent à côté d'un établissement scolaire. Donc, ce ne sont pas sur des bretelles, enfin, cette circulation, elle est adjacente aux écoles.
D'ailleurs, il y a une chose que je comprends mal, en fait. Ces écoles seront donc au milieu de ce triangle. Tout autour, il va y avoir des bretelles avec 4, 6 voies, etc. Comment ils font les enfants pour...
Ils traversent.
Ils traversent comment?
Tout seul. Parce que nous, en fait, on est parents d'élèves.
Sur des axes de 6 voies.
Oui, enfin de 4 voies. Au niveau de la traversée, il y aura 4 voies qui va avoir 2 voies supplémentaires un peu plus loin, sous la 86. Donc c'est juste pour vous dire, c'est un entonnoir en fait. Le boulevard Anatole France qui est adjacent à la maternelle, ils ont 3 ans, hein, les enfants quand ils rentrent là-dedans. Elle sera en fait, elle aura 4 voies et 6 voies un peu plus loin. L'autre boulevard, il aura, je crois, 3 voies, puis 4 voies un peu plus loin. Mmh. Et toujours est-il que nous, on a aussi souligné ce problème de gestion du risque. Parce que oui, vous avez beau mettre des ralentisseurs, des gens qui font traverser, mais on voit des enfants...
Mais il y a déjà eu des accidents.
Oui, oui, mortels. Il y a eu deux accidents mortels sur le boulevard de la Libération, qui est le seul connecté en fait, à une bretelle aujourd'hui. Donc on a
avec
vraiment un retour sur expérience, oui. Des accidents mortels. Et comme je vous disais, ce paramètre n'est pas vraiment pris en compte. Et on l'a dit, en fait, dans les réunions de concertation avec les commissaires enquêteurs, on leur a dit, il y a des enfants qui sont au collège, qui accompagnent leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Mm-hmm. On les voit le matin. Ce n'est pas les parents qui ramènent parfois les enfants en maternelle ou en élémentaire. C'est leurs grands frères ou leurs grandes sœurs. Et vous imaginez un peu le...
Non, j'imagine pas.
C'est un ensemble. C'est un ensemble de choses qui ont fait que nous sommes partis vraiment très très haut, puisque on est parti jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, justement, oui, c'est vrai. Vous êtes parti jusqu'à la Cour européenne en décembre 2021, je crois.
C'est ça, tout à fait.
Je voulais vous demander donc tout ce que vous nous dites, toutes les alertes. Concernant la mise en place de ce futur échangeur qui n'en est pas un. Pourtant, ce projet a été déclaré par Nicolas Ferrand, directeur général de la Solideo, il a été déclaré comme étant nécessaire.
Pour la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
D'accord, c'est ça.
Oui. En fait, concrètement, ce qu'on dit depuis le début, en fait, ce projet est fait sous la bannière des Jeux Olympiques et Paralympiques qui promeuvent l'excellence environnementale et l'inclusion.
Donc nous, on environnementale.
Oui, tout à fait.
C'est extraordinaire.
Tout à fait. C'est des mots qui sont utilisés, mais vraiment tout le temps. Excellence environnementale et inclusion. Et nous, à chaque fois, on leur dit, mais nous nous sentons exclus de tous ces projets, en tant que riverains et experts de nos quartiers. Mmh. On sait ce qui va se passer dans notre quartier, on y vit. Donc quand on vous dit qu'il va y avoir un problème, croyez-nous.
Mais donc, quels sont les arguments qu'ils avancent dans ce nécessaire? Quels sont les arguments qui sont avancés par les pouvoirs publics pour, comment ils justifient ces projets auprès d'ensemble des collectifs
En tout cas, pour celui-ci particulièrement, c'est le changement de paradigme, le changement des habitudes des gens. Donc, vous améliorez le transport en commun, vous mettez en place une ZFE, les gens, vous mettez en place aussi des voitures électriques, les gens prendront moins leur voiture pour aller travailler. Mm-hmm. Donc, on leur dit, vous créez un échangeur, vous déroulez le tapis rouge à la voiture, vous pensez quoi? Mm-hmm. Les gens vont continuer à prendre leur voiture.
Il y aura combien de voitures?
Alors, j'ai repris
20 000.
Oui, entre 20 et 30 000. Mais j'ai retrouvé en fait un document dans une des enquêtes publiques, ils sont toutes liées les unes aux autres. Et j'ai retrouvé un document dans l'enquête publique du franchissement Urban Play, qui parlait justement sur l'échangeur, parce qu'ils ont commandé en fait une étude à une société qui est justement dans celle travail. Entre 12 et 13 000 véhicules sur le côté élémentaire, ça c'est chiffré, c'est sur une plaquette. Et entre 13 et 14 000 du côté maternel. Ça, c'est des chiffres que je n'invente pas, qui sont dans
une boucle. Vous voulez dire tous les jours ?
Tous les jours. C'est une fréquence journalière. La Fondation Le Souffle, les membres de la Fondation Le Souffle, vous disent éloigner la circulation de 500 mètres d'un établissement scolaire d'un axe à fort trafic. À la question que j'avais posée, c'est quoi pour vous un axe à fort trafic ? La réponse a été simple, c'est un axe qui voit traverser 10 000 véhicules par jour. C'est ça pour un axe à fort trafic. La recommandation de la Fondation Le Souffle, qui conseille Paris sur les pollutions urbaines, vous dit éloigner de 500 mètres un axe à fort trafic, 10 000 voitures. Là, on aura entre 12 et 13 000 véhicules
d'un côté,
à 6 mètres de l'école élémentaire et à 12 mètres de l'école maternelle.
Lorsque nous avions échangé, on avait parlé de la population en général, la population du quartier. Et, vous avez déploré la passivité des populations face à ces projets urbains qui constituent évidemment une menace réelle pour leur santé et pour celle de leurs enfants. Comment expliquez-vous cette passivité ?
En fait, je pense que le quartier Pleyel n'est pas isolé par rapport à notre population. enfin nos concitoyens partout où ils sont en France, on sent qu'il y a de la peur, on sent qu'il y a de l'indifférence, on sent qu'il y a de l'intérêt. En fait, la population, elle est mixte, en fait. Hein. Chacun y voit, enfin, voit midi à sa porte. Certaines personnes vous diront, si c'est pollué, je déménage.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle est fataliste ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et nous leur montrons qu'il n'y a pas de fatalité sur laquelle on ne peut pas agir. Surtout sur des projets aussi dangereux.
D'ailleurs, on pourrait dire que ces projets qui datent quand même de 2012, 2014...
2007 pour certains.
2007 pour certains.
Si ce n'est pas plus loin. Parce que l'échangeur à Pleyel, il devait être fabriqué avec le tronçon en 1993. En 1993.
Ah oui, en effet.
Il a été refusé par la population.
C'est des projets très anciens,
tout à fait,
qui dorment dans les placards depuis
longtemps. Oui, d'ailleurs, les piles qui supportent les bretelles, elles étaient là, mais il n'y avait pas de tablier dessus.
D'accord. Et donc, ces projets d'urbanisme donc, qui datent déjà de plusieurs années, on pourrait dire qu'ils appartiennent finalement à un autre temps.
À une autre époque.
Avant le constat alarmant du dérèglement climatique, de la dégradation de l'environnement, de l'extinction de nombreuses espèces vivantes, les problèmes de pollution de l'air que nous respirons, etc., comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Comment expliquer l'entêtement des pouvoirs publics ?
Parce que, en fait, ils n'ont pas encore modifié leur logiciel, tout simplement. En fait, concrètement, ce que je disais souvent aux gens, c'est que dans les années 70, quand les quatre tours devaient être construites à Pleyel parce que c'était une plateforme économique, ça devait être une plateforme économique, la crise économique des années 70 ont stoppé en fait les budgets de l'État en fait, sur Pleyel. Donc c'est pour ça qu'on n'a qu'une seule tour sur les quatre. En fait, à ce moment-là, on a appuyé sur pause, sur le bouton pause. Et quand les JO sont arrivés, on a appuyé sur le bouton play. Sauf que quand vous appuyez sur le bouton play avec 30 ans, 40 ans, 50 ans d'écart, vous voyez bien qu'il y a un changement de paradigme.
Absolument.
On a des difficultés climatiques, on a des problèmes qu'il faudra résoudre pour nos enfants et pour lesquels il faut s'inquiéter. Le souci, c'est quand ils ont appuyé sur le bouton play, sachant qu'il a été mis en pause dans les années 70, tous ces projets-là, donc, ils ne se sont pas inquiétés des conséquences environnementales et climatiques.
Je sais que les riverains ont proposé des alternatives. Vous pouvez nous dire rapidement un mot là-dessus ?
Les alternatives. Donc, parmi les alternatives, c'est en fait la réalisation d'un jardin public de 1 hectare 2 à côté de l'école maternelle.
Qui a été refusé. Je vais vous poser une dernière question. Vous êtes engagé dans ce combat depuis plusieurs années. Je me pose la question, où trouvez-vous l'énergie de continuer à vous battre alors même que tous les chantiers avancent ? Quel est le sens de votre combat ?
Alors, je trouve en fait mon énergie des autres personnes en fait, qui constituent les collectifs et associations. Donc, il y a un schéma directeur, par exemple, région Île-de-France qui va se faire. Donc, j'essaie de rentrer mais de les aider, en tout cas, ou de donner mon appréciation. Il y a un petit mot sur ces collectifs contre la 104, le Pont d'Achère, l'avenue Parisi, en fait, qui sont en train de décrire en fait un moratoire, en fait, justement pour demander que l'État surveille un petit peu, et fasse attention en fait à toutes ces réalisations de routes et d'autoroutes qui portent atteinte à l'environnement et qui portent atteinte à la santé publique. Il faut juste savoir aussi, parce que beaucoup ne le savent pas.
Schéma directeur régional.
Oui. Et la MNLE 93 fait aussi son réquisitoire. Elle va aussi porter sa parole, de partout. De partout. Et pas juste en Seine-Saint-Denis. C'est vraiment dans les Yvelines, dans le Val-d'Oise, mais vraiment partout. Et les gens ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment apeurés par tout ce qui se passe en Île-de-France.
Vous pouvez nous donner si des personnes souhaitent vous contacter ? Est-ce que vous avez une adresse mail ?
Oui, c'est fcpepleyel@gmail.com. Ou sinon, on a des sites, on a des pages Facebook, on peut être contacté en fait, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits, donc on peut facilement nous contacter par ces réseaux sociaux.
Amit Jaoui, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci infiniment.
C'est moi.
Et nous allons peut-être... je remercie aussi beaucoup Frédéric, qui s'occupe de la partie technique, là, aujourd'hui. On va peut-être clore l'émission avec notre générique. Frédéric, s'il te plaît.